Bonjour à tous. Alors ce matin, nous ne sommes pas nombreux. Peut-être est-ce bien, puisque le thème de ce matin, il n'est pas forcément jovial. Alors bon, si on sort troublé du culte, finalement, voilà, le Seigneur nous accompagnera. Mais c'est vrai qu'il y a quelques semaines, Émile nous a rappelé le contexte violent du monde qui était déjà présent en fait au temps biblique. Et il nous a rappelé à travers un texte dans Deux Rois quatre bonnes nouvelles, ou plutôt trois et demi pour être plus précis. Alors, vous voulez peut-être savoir quelles sont ces bonnes nouvelles. Eh bien, je vous renverrai vers notre site internet pour réécouter la prédication. Vous pouvez la retrouver. Elle vaut vraiment le coup. Mais cette réflexion, en fait, j'ai voulu la poursuivre aujourd'hui. Cette réflexion sur cette notion de violence, cette violence fondamentale qui est, il me semble, l'archétype même de la violence inhérente à l'être humain. Et pour ce faire, je vous propose de lire un texte qui relate en fait l'intrusion de la violence sur la terre dans Genèse 4, versets 1 à 16, et j'ai invité Hamid à venir nous lire ce passage. Donc, si vous avez vos Bibles, dans le chapitre 4 de la Genèse, versets 1 à 16.
L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit: Avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn, cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn: Pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte. Son désir se porte vers toi. Mais toi, maîtrise-le. Mais Caïn dit à son frère Abel: Allons au champ. Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn: Où est ton frère Abel? Je n'en sais rien, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu lui dit: Qu'as-tu fait? J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu es maudit et chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera désormais ses produits. Tu seras errant et fugitif sur la terre. Caïn dit à l'Éternel: Mon châtiment est trop lourd à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile et je devrais me cacher devant toi. Je serai errant et fugitif sur la terre et si quelqu'un me trouve, il me tuera. L'Éternel lui dit: Eh bien, si on tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et l'Éternel marqua Caïn d'un signe pour qu'il ne soit pas tué par qui le rencontrerait. Caïn partit loin de l'Éternel. Il alla séjourner au pays de Nod, le pays de l'errance, à l'Orient d'Éden, le pays des délices. Parole du Seigneur. Amen.
Merci, Hamid. Alors, l'histoire que nous avons lue décrit une rupture. C'est une rupture avec Dieu qui est engendrée par la désobéissance du premier couple, quelques chapitres avant. Et cette rupture n'est pas sans conséquence pour l'humanité, car elle introduit la prolifération du mal qui est manifesté par l'usage de la violence. Alors, il est vrai que ce mot peut nous sembler banal à l'oreille lorsque nous vivons dans une civilisation civilisée où la violence physique, du moins, n'y est pas tous les jours poussée à son extrême. Mais que se passe-t-il ? Que se passe-t-il quand cette violence surgit aux yeux de tous ? Comme si finalement cela pourrait arriver à tout le monde. Le choc d'un acte violent se fait ressentir au plus profond de notre être. Mais comment est-ce possible ? Oui, comment est-ce possible de commettre un crime aussi odieux à son propre frère, en plus ? Et si l'on regarde la configuration du meurtre, au verset 8, nous observons une préméditation. Mais Caïn dit à son frère, « Allons au champ !» Caïn a déjà imaginé le projet d'aller tuer son frère. Meurtre par préméditation, pour un premier meurtre, c'est quand même fort. Alors en plus, à l'époque, les armes à feu n'existaient pas. Donc difficile pour Abel, qui fut tué du premier coup. Difficile d'imaginer Caïn le faire d'un coup, en fait. On ne sait pas quel ustensile il a utilisé. On a bien l'impression qu'il y a acharnement. C'est une barbarie. Alors, sans chercher à défendre l'indéfendable, je vous propose ce matin d'essayer de comprendre dans une première partie les origines de cette violence avant d'essayer de trouver les moyens d'apprendre à la gérer. Nous sommes tous d'accord pour convenir que l'acte meurtrier de Caïn est plus qu'odieux. L'idée même de pouvoir tuer son frère à main nue est presque insoutenable. Mettons-nous quelques instants à la place de Caïn. Qu'est-ce qui a bien pu, selon lui, justifier un tel acte ? Alors, selon le texte, nous observons qu'un fait va venir perturber la relation de la fratrie. Il y a un élément déclencheur à cette violence. Dieu va demander aux frères, enfin, c'est pas tout à fait précisé dans le texte, en tout cas, les frères vont effectuer une offrande en l'honneur de Dieu. Et nous voyons que l'offrande du frère cadet est agréée par Dieu. Voici l'élément qui va déclencher le ressenti de Caïn. Un élément qui se base sur une injustice. Ah, ce fameux droit d'aînesse. Ce fameux droit d'aînesse. J'en sais quelque chose. En tant qu'aîné, on aime bien profiter d'une certaine longueur d'avance sur nos petits frères et sœurs. Et c'est vrai que nous sommes les premiers arrivés, premiers servis. Et là, nous remarquons que le choix du frère cadet vient bouleverser l'histoire de la famille. Remarquons que ce choix du frère cadet est un thème qui revient souvent dans le Pentateuque. Ésaü et Jacob. Et Jésus lui-même, dans le Nouveau Testament, évoque cette annulation de droit d'aînesse avec la parabole du fils prodigue, en quelque sorte. Cette thématique, qui est un peu désagréable à entendre, elle vient renforcer une idée que Dieu choisit qui il veut. Il choisit qui il veut en tant que Père souverain. Il détient le libre choix, qui ne suit pas toujours notre logique humaine. Il est vrai. Mais l'homme doit l'accepter. Caïn, lui, ne l'accepte pas. Mais pourquoi un tel choix? Pourquoi un tel choix? La réponse peut se situer peut-être dans le profil des deux frères. Observons. Caïn, dont le prénom est issu du verbe cana, je ne sais pas si je le prononce bien, signifie acquérir, produire, procréer. Et Caïn est un cultivateur au profil sédentaire. Son offrande se constitue de produits de la terre. Jusqu'ici, on peut dire que tout est en adéquation avec le profil de Caïn. Abel, dont le prénom signifie souffle, vanité, nuée, en référence à la brièveté de la vie de celui à qui il est donné, Abel offre les premiers-nés de son troupeau. Il s'agit là d'une offrande sanglante qui sera mentionnée beaucoup plus tard comme prescription dans les livres de la loi du peuple de Dieu. Mais cette offrande de prémices des gains, exprime une chose. Elle exprime que Dieu est à l'origine de la multiplication du troupeau. Certains commentateurs vont aussi mettre en avant une opposition entre les deux frères. Nous avons un frère plutôt spirituel, Abel, qui fait preuve de zèle à l'égard de Dieu, et un frère à tendance un peu matérialiste, Caïn, qui se contente d'un geste cultuel minimal, effectué sans enthousiasme. Le Nouveau Testament, dans la lettre aux Hébreux, nous révèle un critère de choix qui nous éclaire peut-être davantage. Dans Hébreux, chapitre 11, au verset 4, nous lisons que par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, la foi, il a été déclaré juste par Dieu, qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons. Et grâce à elle, Abel parle encore bien que mort. Alors ce passage met en avant la disposition de cœur d'Abel. Une disposition de cœur finalement qui va bien au-delà du contenu du sacrifice. Mais pour notre cher Caïn, la pilule a du mal à passer. À l'annonce du choix de Dieu, un processus irréversible se met en place en son for intérieur. Ce dernier commence au verset 5 avec la colère qui le fait passer dans un état second qui s'observe même sur son visage, qui s'assombrit. Au verset 8, nous voyons que la tromperie précède le crime en guise de préméditation. Remarquons que ce processus perdure même après le meurtre d'Abel, avec l'expression du mensonge au verset 9 et de l'égocentrisme au verset 13. Colère, tromperie, crime, mensonge, égocentrisme, tant de signes avant-coureurs. Le verset 13 résume parfaitement l'aliénation dans laquelle se trouve Caïn. Caïn a perdu totalement son identité suite à une série de ruptures. En effet, au cours de son processus, nous observons que Caïn rompt petit à petit avec Dieu, premièrement. Il rompt aussi sa relation aux hommes, avec cette envie de meurtre, enfin, par la malédiction de Dieu. Il rompt maintenant avec son lieu de vie. Finalement, ce sentiment d'injustice va être le fruit d'une dégénérescence de l'humanité qui va s'opérer très très rapidement dans le cœur de Caïn. La colère, elle va agir comme un catalyseur du crime. Les fans de la série de la Guerre des Étoiles, peut-être, pour ceux qui connaissent un peu cette trilogie, ou, enfin, pas une trilogie, mais comment on appelle Googleisons et celui qui trouve le... En tout cas, la série de Star Wars, Dans cette série, on peut reconnaître un processus aussi, d'une lutte intérieure d'un personnage clé en la personne de Dark Vador. Je ne sais pas si vous saisissez au moins ce personnage, même si vous n'avez pas vu cette série, cette série de films. Et nous voyons que Dark Vador, qui ne s'appelle pas comme ça au début, il s'appelle Anakin, doit lutter contre cette colère qui le ronge intérieurement suite à une injustice qu'il va vivre dans son enfance. Pour savoir laquelle, je vous invite à regarder le film, ou pas. En tout cas, cette injustice et cette colère est symbolisée par le côté obscur de la force. Et dans ce film, en fait, nous voyons qu'au fur et à mesure de l'évolution de Anakin, cet sentiment de colère le ronge petit à petit, malgré l'enseignement des chevaliers Jedi qu'il a reçus, ses ambassadeurs du bien. En somme, la violence inhérente à l'homme est le fruit d'un processus qui peut s'enclencher par un élément ou divers éléments perturbateurs. On ne naît pas violent, on le devient. Mais comment donc endiguer ce processus infernal? C'est l'objet de la deuxième partie de notre réflexion. Il y a quelques années, comme Cain, pardon, nous sommes tous susceptibles de succomber à des élans violents. Il y a 2 semaines, il m'a été rapporté un incident très dramatique qui s'est déroulé au sein d'une famille chrétienne, évangélique de la région parisienne, où malheureusement, le mari a tué sa femme après plus d'une trentaine d'années de mariage, juste avant d'essayer d'incendier la maison familiale. Alors j'ose imaginer la tâche du pasteur de cette église, des membres de cette église, pour comprendre cet événement et pour accompagner la famille en deuil, avec des conséquences judiciaires. Surtout que visiblement, les membres de la communauté n'ont rien vu venir, car selon eux, le couple se portait bien. Mais comment anticiper? Comment gérer une violence latente qui parfois ne demande qu'à jaillir en nous? Alors concernant Cain, nous voyons que tout se joue à un moment clé. Comme mentionné précédemment, au verset 5, nous voyons que lorsque Cain apprend que son offrande n'a pas reçu les faveurs de l'Éternel, lorsqu'il apprend cette nouvelle, il y a un déclic, il se met en colère. La déception laisse place à un sentiment beaucoup plus fort et destructeur, car oui, l'humanité de Cain se réduit petit à petit en son for intérieur. Elle est consumée par la haine et la colère, qui par la suite se manifestent d'une manière extérieure très brutale et très violente. Dieu ressent ce mal qui ronge Cain et il l'interpelle au verset 6. Et pourquoi te mets-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu te relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi. Mais toi, maîtrise-toi. Ce potentiel destructeur ne demande qu'à se mettre en marche à cause du péché qui réside en l'homme. Dieu appelle à la maîtrise de soi. Dieu appelle au self-control. Cette notion de self-control, on est finalement tous amenés à l'utiliser de temps à autre. Je ne sais pas vous, quel est votre domaine ou quelle est votre occasion de chute où là, pour le coup, vous avez du mal à vous contrôler. Moi, il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, il y a un domaine dans lequel où je sais que la colère monte vite et la frustration arrive vite. C'est un domaine banal, c'est le sport. C'est bête. Quand je regarde du sport, ou quand je fais du sport, ce fut un domaine, car grâce à Dieu, nous progressons jour après jour sur le chemin de la sanctification. En tout cas, c'est un domaine dans lequel la colère et le contrôle, j'ai du mal à les contenir. Surtout lorsque je joue dans une équipe ou contre quelqu'un où on perd, je perds, et puis je sens que, je ne sais pas si c'est juste ou pas juste, en tout cas, je le vis comme une injustice. Et là, j'ai vraiment besoin de réagir. Soit je parle, ou soit j'agis, et des fois j'agis de la mauvaise des manières, et le self-control m'échappe. Dieu appelle à la maîtrise de soi, aux prémices de la colère. Nous voyons que le facteur temps joue contre Caïn, parce que plus il tarde à se maîtriser, plus son cœur s'endurcit et plus il s'oriente vers le passage à l'acte. Oui, un premier constat nous indique que la racine et les prémices de la colère doivent être combattues très, très intensément. La gestion de la colère peut aussi s'inscrire dans une deuxième précaution qui est peut-être plus continue dans le temps, à savoir l'amour. L'amour et l'intérêt pour les autres, comme Rivo l'a prié tout à l'heure. Nous le voyons, Caïn a plongé dans l'égocentrisme. Cela l'a amené à se couper des autres, étant peut-être trop focalisé sur ses intérêts. Il y a quelques années de cela, un rappeur français a sorti une trilogie d'albums musicaux qui s'intitulait, premier album, Qui suis-je? Deuxième album, Suis-je le gardien de mon frère? Troisième album, Oui, je le suis. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais été très très interpellé par cette démarche, en fait, qui poussait les auditeurs citoyens à s'interroger sur leur rôle sociétal. Quelle place et quel impact peuvent-ils avoir dans la société? C'était même pas un chrétien, c'était un musulman. En ce sens, la question Suis-je le gardien de mon frère? Elle m'avait interpellé parce qu'elle suggérait une co-responsabilité des êtres humains envers les autres. Ce n'est que plus tard, en relisant la Genèse, que j'ai réalisé la provenance de cette question et j'étais bien heureux. Au verset 9, lorsque Dieu interpelle son frère, Caïn sur son frère, pardon, ce dernier lui répond, bizarrement, suis-je le gardien de mon frère? Par ironie, Caïn suggère l'un des réflexes qu'il aurait sans doute épargné de cet instinct meurtrier. Un réflexe que je nomme altruisme au lieu d'égoïsme. Alors il est vrai qu'on n'en est pas altruiste, pardon, tout comme on n'en est pas violent. Peut-être avons-nous besoin d'entrer aussi dans un long processus d'ouverture à ceux qui nous entourent. Comprendre son environnement comportemental peut peut-être aider à l'aimer, même quand cet environnement dysfonctionne. La gestion de la colère est donc un élément prépondérant pour endiguer la violence meurtrière. Pourtant, il y a des cas où cela semble impossible. Impossible de ne pas se faire justice tout seul. Nous l'avons vu, le sentiment d'injustice peut nous faire basculer dans l'endurcissement. Aussi, dans une autre mesure, il me semble que l'injustice peut aussi nous sortir d'un cercle vicieux. En effet, c'est une injustice qui peut nous aider à annihiler notre colère. Cette injustice prend racine aussi dans l'altruisme que nous avons évoqué précédemment. Il s'agit de l'altruisme d'un premier-né, l'altruisme d'un homme qui a fait passer nos intérêts avant les siens. Un homme qui, comme Abel, a été victime de jalousie. Un homme qui a été condamné sous l'effet de la colère ressentie par des chefs religieux et politiques, jaloux de l'heureuse réputation qu'il se construisait auprès de son peuple. De quelle injustice parlons-nous? Cet homme est mort injustement, car c'est le seul homme sur terre qui n'ait jamais fauté. Cet état de pureté en lui est reconnu aujourd'hui encore dans une autre religion monothéiste même, où on le prénomme Issa. Alors pour notre part, Ce Issa, nous le connaissons mieux sous le nom de Jésus. Jésus, Dieu fait homme, n'aurait-il pas pu tuer ses bourreaux d'un revers de main alors qu'il était injustement accusé? N'a-t-il pas ressenti la peur dans le jardin de Gethsémané juste avant de rencontrer ce destin tragique qu'on lui connaît? Mais en relisant le récit de la passion du Christ, il est vraiment intéressant de relever qu'à aucun moment, Jésus n'a ressenti la colère. Ce qui est formidable, c'est que cette injustice, elle, vient compenser aujourd'hui tous les moments où nous avons ressenti la colère. Cette injustice vient compenser tous nos manquements de self-control qui sont liés au péché qui demeure en nous. Et c'est au nom de Jésus que Dieu nous pardonne lorsque l'énervement et la colère nous font sortir de notre altruisme. Oui, la violence s'est introduite dans le monde par une injustice ressentie chez un homme qui a commis l'irréparable. Mais cette violence peut être aujourd'hui vaincue en suivant l'exemple d'un homme qui est venu pour réparer. Pour vaincre la violence, Jésus nous invite à convertir la colère en amour. Il nous invite à convertir la colère en amour inconditionnel, qui petit à petit, cet amour peut venir restaurer la part d'humanité qui est rongée par la déception, l'amertume ou l'injustice. Ce Jésus nous laisse deux commandements. Dans Matthieu 22, versets 38-39, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors lorsque nous sommes poussés à nos retranchements par une situation qui pourrait alimenter notre colère, peut-être nous faut-il puiser la force auprès de Dieu pour aimer malgré tout, pour demeurer en paix et prévenir le pire. J'irai même plus loin. Nous avons besoin d'être consumés intérieurement par l'amour de Dieu. Parce que c'est vrai, lorsqu'on revient en arrière et qu'on observe le processus de la colère en Caïn, la colère, elle n'est pas venue timidement. Elle ne s'est pas invitée en lui de manière tiède. La colère est venue, elle a consumé Caïn qui a commis l'irréparable. Pour maîtriser cette colère, pour essayer de la gérer, je crois que notre mouvement d'appel à l'amour ne doit pas être tiède. Nous devons littéralement nous laisser consumer par l'amour. C'est un verbe fort, il est vrai, mais tellement primordial. Être consumé par l'amour de Dieu n'est pas un geste anodin. Peut-être aujourd'hui, nous avons des situations qui nous mettent en colère. Nous avons nos limites, peut-être, je ne sais pas. Peut-être avons-nous des griefs contre une personne, notre voisin, qui a encore tondu la pelouse alors que je faisais la sieste, je ne sais pas. Notre frère, notre parent, notre frère en Christ, que sais-je. Convertissons ce sentiment de colère en amour. C'est vrai que ce n'est pas un réflexe naturel à l'homme, parce que nous avons un peu une nature un peu loufoque, un peu bizarre, un peu malsaine, qui est due au péché. Et ce qui est intéressant dans notre posture d'être humain, c'est que malgré notre nature, nous avons un potier qui nous façonne à son image. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde un pot se faire façonner, j'ai pas de vidéo ou de... Bon, imaginez la scène, mais le pot, pour lui, c'est pas naturel de devenir un cercle. On voit qu'on est obligé de le courber, le torturer, et à la fin, la forme est harmonieuse. Dieu est notre potier, et aimer, aimer sans condition, est un réflexe qui nous est donné par son action, qui nous façonne. Alors pour finir cette réflexion, je vous invite à avoir un moment de recueillement. Un moment de recueillement où vous allez pouvoir prier, peut-être à haute voix ou dans votre cœur. Prier pour les personnes qui vous mettent en colère ou les situations qui vous mettent réellement en colère. Moi, personnellement, je sais que je suis très, très en colère. Des fois, souvent, ma femme me le dit, mais t'es pessimiste contre la société, le gouvernement, le système. Alors, je ne sais pas, vous, qu'est-ce qui vous met vraiment le plus en colère, mais peut-être qu'on peut prendre le temps pour prier pour ces éléments qui nous mettent en colère. On peut aller plus loin, peut-être que nous pouvons aussi prier pour ces personnes qui nous mettent en colère. C'est un temps que je vous propose maintenant, peut-être de recueillement et de prière. Et dernièrement, nous pouvons aussi peut-être prier pour nous-mêmes. Prier pour laisser l'amour de Dieu agir en nous et calmer cette colère ou cette violence qui est latente et qui est tapie devant nous à cause du péché. Car c'est de notre cœur, changé par Dieu, que viendra l'amour qui pourra annuler la violence. Amen.